Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On se sent prêt, puis en fait non. Il y a un film dont le titre résume assez bien ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est « Plonger en eau trouble ».
Cette plongée dure maintenant depuis un an. Et Florence Brault, que l'on vient d'entendre, fait le bouchon dedans. On ne parle pas de cinéma, mais de la crise sanitaire, qui a mis les soignants comme elle en première ligne. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va écouter au fil de 4 épisodes la parole de soignants dans leur traversée du Covid. En première ligne, comme en première page, les soignants, on a rarement autant parlé d'eux, mais assez peu entendu leur voix finalement. Florence Brault travaille dans l'UHR d'un EHPAD en Bretagne. UHR veut dire unité d'hébergement renforcée. C'est celle dédiée aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des cas lourds, déjà confinés, qui n'ont pas vraiment réalisé ce qui se passait. Elle est devenue aide-soignante sur le tard, comme elle dit, à plus de 35 ans, après les avoir vus prendre en charge la fin de vie de son père. Florence voit dans leurs gestes la plus pure expression de ce que signifie prendre soin. Elle veut faire ce qu'ils font et se forme au métier. On pourrait parler de vocation, non ?
On parle beaucoup de vocation infirmière et en fait, la vocation, c'est quelque chose qui nous enferme dans une posture bienveillante et un peu soignonniante. C'est gratuit, la vocation. C'est du travail gratuit, c'est l'amour du métier qui fait qu'on fait tous les sacrifices. Le soin, c'est pas un sacrifice. Le soin, c'est un métier qui exige des compétences et qui demande un salaire. Donc, je ne parle pas de vocation. Par contre, je peux vraiment parler d'amour du métier, en effet. Au quotidien, mon métier, c'est d'être auprès de personnes âgées et démentes. Donc, au quotidien, c'est tout simplement prendre soin d'elles, puisqu'on ne guérit pas de la vieillesse et on ne guérit pas de la démence à ce stade-là de la maladie, parce que c'est des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Mais par contre, on peut encore vivre de très belles choses et de très beaux moments. Le quotidien de l'aide-soignante, c'est vraiment de répondre aux besoins alimentaires qui sont les besoins vitaux, en fait, de se nourrir, s'habiller, marcher, aller aux toilettes, vivre, tout simplement, en fait. Et mon quotidien, c'est ça. C'est de répondre à ces besoins-là en adaptant quotidiennement mon soin, parce que chaque personne est différente et chaque personne a des besoins particuliers différents. Et donc, en fait, c'est ça. Je m'adapte au maximum pour satisfaire des besoins alimentaires et essayer de faire en sorte que les gens passent une belle journée, tout simplement. On a échappé à la première vague, on n'a pas du tout été touchés. Et quand la deuxième vague est arrivée, on avait beau se sentir prêt, on avait tout ce qu'il fallait, on avait des masques, on avait des gants, on avait de la solution hydroalcoolique, on était au taquet. Et en fait, non, on n'était pas prêt du tout. Quand on parle de vague, c'est vraiment ça, en fait. C'est pas juste le petit ressac sur la Côte d'Azur, la plage en été. C'est pas du tout ça. C'est une grosse vague, en fait, qui nous arrive dessus et on voit rien venir. C'est-à-dire qu'on a eu une personne malade qui avait des symptômes Covid classiques, en fait. Enfin, les symptômes que tout le monde connaît parce que ça fait des mois qu'on en parle. Et quand on a testé les autres personnes de la résidence et le personnel soignant, en fait, on s'est rendu compte que quasiment tout le monde était malade. Et ça a été, d'un coup, ça nous est tombé dessus avec une violence inouïe, c'est-à-dire qu'un jour, on allait bien, et le lendemain, pouf, on était tous malades, et on était tous à la ramasse, avec fièvre, courbature, et puis surtout, on n'était pas prêt à ce que tout le monde tombe malade en même temps. Et c'est ça qui a été super dur. On se sent prêt, puis en fait, non. Il y a un film dont le titre résume assez bien ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est « Plonger en eau trouble ». Alors, mon ressenti n'a rien à voir avec le film, mais vraiment le titre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va aller nager dans une eau claire et limpide au milieu des petits poissons en se disant « Ah, c'est bon, j'ai tout, là, j'ai l'oxygène, j'ai le masque, j'ai le tuba, j'ai tout ce qu'il faut ». Et en fait, non, pas du tout. On est balancé dans un truc qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas, on n'y voit rien, on ne sait pas où on est et on ne sait pas ce qu'on va faire. Et c'est ça, « Plonger en eau trouble ». La traversée du Covid, c'est du tâtonnement, en fait. C'est tous les jours se questionner à nouveau sur comment je m'organise aujourd'hui, comment je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour les gens là aujourd'hui, comment je fais pour qu'ils soient bien, pour qu'ils n'aient pas mal, pour qu'ils récupèrent au mieux. tous les jours, on se pose de nouvelles questions et tous les jours, il faut y répondre. Et la réponse de la veille n'est pas forcément celle du lendemain. Et c'est épuisant, en fait. C'est vraiment épuisant parce qu'on a des protocoles, on a tout ce qu'il faut pour répondre à ça, parce qu'on est préparé, en fait, depuis des mois. Mais le protocole écrit n'a rien à voir avec le terrain. C'est-à-dire qu'on a une consigne et on se rend compte que, là, on ne peut pas l'appliquer parce que cette personne-là, on ne peut pas faire ça avec elle, ce service-là, on ne peut pas faire ça dans ce service. L'architecture n'est pas la bonne, la maladie n'est pas la bonne. Nous, on n'est pas forcément les bonnes personnes pour ça non plus. Et en fait, c'est un ajustement permanent, en fait, cette traversée du Covid, un questionnement permanent. La traversée du Covid pour les patients, ça a été quelque chose de très lourd et de très léger en même temps. En fait, la chance qu'on a dans ce service, pas la chance, c'est une façon de parler, c'est que déjà, l'isolement et le confinement, ça a été moins ressenti que dans des EHPAD classiques. Parce que chez nous, c'est déjà une unité qui est fermée parce que les gens ont la maladie d'Alzheimer, donc ont un risque de déambulation, de perte de repères. Donc, c'est une unité qui est fermée de toute façon. Donc, le confinement en soi, c'était pas si mal vécu que ça parce que ça changeait pas énormément les habitudes de vie en fait, des patients qu'on reçoit. Et le Covid, ça a été un petit peu notre chance. C'est qu'il y a eu beaucoup de souffrance physique parce que c'est une maladie qui fait souffrir. Donc, il y a de l'asphyxie, il y a de la perte d'appétit, il y a une grosse asthénie. Enfin, il y a vraiment tous les symptômes qui font qu'on n'est pas bien. Hein. C'est une très grosse grippe. Enfin, c'est pire qu'une très grosse grippe. Mais en même temps, il n'y avait pas forcément de conscience de la maladie. Bah, si, on est conscient qu'on est malade, mais on n'est pas sûr qu'ils se soient vraiment rendu compte de l'ampleur, de la peur que ça générait. Parce que c'était... Je ne sais pas comment l'exprimer très clairement, en fait. Il y avait, dans notre service, par exemple, on ne regarde pas le journal avec eux. Enfin, on est tenu assez loin des actualités parce qu'on est dans un quotidien altéré, en fait. Du coup, il y a moins la pression de se dire le Covid, on en meurt, tout ça. Ils étaient malades. On prenait soin d'eux parce qu'ils étaient malades, mais il n'y avait pas forcément cette conscience de la gravité de cette pandémie, en fait. Donc, ça nous a... ça a un petit peu épargné notre service, en fait. Tout le monde malade en même temps, ça veut dire tout le monde au lit en même temps. Et donc, c'est une dépendance quasiment totale. Donc, c'est compliqué parce que du jour au lendemain, il faut s'occuper entièrement de personnes qui avaient l'habitude d'être plus ou moins autonomes. Donc, c'est une charge de travail énorme d'un coup qui arrive dans le service. On a eu des renforts d'équipe, mais c'est un temps passé auprès de chaque personne qui n'est plus que du temps de soins. Alors qu'avant, le temps qu'on passait avec les personnes, en fait, il était du temps de soins, mais également du temps d'animation, du temps, j'allais dire du temps mort, mais c'est pas ça, mais c'est aussi du temps de présence en principe. Et là, notre temps entier était consacré aux soins. Donc, c'est compliqué aussi pour les patients, justement, de nous voir en tant que pur soignant, en plus complètement harnaché avec la blouse, la surblouse, la charlotte, le masque SFP2, les lunettes. Ça donne une impression de robots qui rentrent dans la chambre, en fait, complètement déguisés. On se voit plus, enfin, eux ne nous voient plus. On le dit souvent, mais par exemple, le sourire, l'échange n'est plus du tout le même, est complètement altéré. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On a passé tout le premier confinement, enfin, tout le début de l'année, à se dire, mais mon Dieu, si le virus arrive dans notre unité, ils vont tous mourir. On avait vraiment très, très peur de ça parce que notre UHR est situé au sein d'un établissement où il y a en tout 98 résidents. Il y a aussi un EHPAD et une USLD. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment très dépendants pour certains. Et on n'avait qu'une trouille, oui, c'était que le virus arrive. On se disait, mais vu le taux de mortalité qu'il y a chez les personnes âgées, ça va être une hécatombe. On avait vraiment très peur, surtout qu'on sait que ils ne sont pas du tout prioritaires pour entrer à l'hôpital, enfin, vraiment dans les clauses de réanimation, enfin, dans les choix qui doivent être faits en cas d'urgence. Une personne très âgée et démente, clairement, on sait très bien qu'elle ne sera pas prioritaire. Donc, on a vraiment eu peur pour eux, en fait. On s'est dit, mais comment on va faire? Comment on va faire avec eux si jamais tout s'envenime? Enfin, je ne dis pas qu'on vit avec les gens, mais quand on travaille dans un établissement qui offre des séjours de longue durée, on passe 7h30 par jour avec les mêmes personnes. Bien certains, on les voit plus que nos enfants, hein, tout simplement. 5 jours par semaine, 7h30 par jour. Enfin, on passe beaucoup de temps avec eux. Et on dit souvent que l'hôpital est une grande famille, mais c'est un peu ça au final. C'est, Il y a une famille de soignants, une famille de patients. Enfin, on se connaît tous depuis des années. Et clairement, on n'est pas prêt à voir mourir des gens en masse. On s'habitue à ce que les gens meurent. Ça fait partie du processus. Hein. On sait très bien que quand ils rentrent en EHPAD, ils ne vont pas ressortir tout irait vers un avenir meilleur. Mais il y en a un qui meurt de temps en temps. Enfin, c'est un rythme naturel. Et là, on s'est dit, mais s'il y en a beaucoup qui meurent en même temps, c'est dur aussi pour nous. Enfin, vraiment, c'est dur. On n'est pas prêt. Après, directement lié au Covid, on n'a pas eu de décès. On a eu des personnes qui sont décédées par la suite, qui étaient déjà très fragilisées par leur grand âge, en fait. Et le Covid a sans doute accéléré les choses, mais ça n'a pas été directement en Covid. Ça a été une période compliquée, mais au final, on a découvert aussi des choses qui étaient vraiment très belles. C'est-à-dire qu'on a découvert, on savait déjà qu'on était une équipe solidaire, parce qu'on est une super équipe. Mais là, ça a été vraiment merveilleux. C'est-à-dire qu'on s'est tous organisés pour essayer de se relayer, parce qu'on est quasiment tous parents aussi, en tant que soignants. Enfin, on est beaucoup à avoir des enfants, on est beaucoup de femmes dans ce service. Enfin, en règle générale, les soignantes sont souvent des femmes. Et donc, il y avait aussi l'organisation entre nous pour l'école à la maison, pour les enfants à l'école, aller les chercher. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que notre vie personnelle était encore présente, et plein de choses qui faisaient que, comme on était tous quasiment malades aussi du Covid, on partait en arrêt, on revenait, mais on n'était pas tous très en forme. Enfin, moi, je suis restée fatiguée un long moment quand même. Et en fait, on s'est tous entraidés. Ça a été assez exceptionnel. On a tous regardé ensemble les plannings pour dire, bon, bah là, on va se ménager une période de repos. Là, tiens, bah, toi, tu as besoin de ce créneau-là pour tes enfants. Enfin, on a eu une consommation de chocolat qui était énorme. Et on s'amenait des petites douceurs, on essayait de se remonter le moral. Enfin, on a eu des renforts des autres services, en fait, des gens qui sont venus nous aider, alors que voilà, c'est pas du tout leur service, ils n'ont pas du tout l'habitude de ces personnes-là. Et là, spontanément, ils ont dit, bon, ben là, vous avez besoin de renforts, on arrive. Vraiment, de ce côté-là, ça a été une très, très bonne chose. Il y a eu une solidarité dans l'équipe qui était assez incroyable. Et c'est quelque chose, ça, qui nous est resté. C'est-à-dire que maintenant encore, on est vraiment un groupe soudé. Ça renforce énormément les liens d'équipe.
Madame Chex, elle ne veut pas se réveiller. Hein.
Levez la jambe, hop.
Ça va ?
Il y a eu cette peur, pas de mourir, parce que je suis en relative bonne santé pour mon âge, donc ça va. Mais il y a eu la peur de faire mourir des gens, de se dire qui est-ce que j'ai potentiellement contaminé malgré tous les gestes barrières, qui est-ce que j'ai vu, à qui est-ce que j'ai pu transmettre cette saloperie et, est-ce que quelqu'un va mourir à cause de moi? Et ça, c'est ce qui est terrible aussi, c'est de se dire qu'on risque de tuer des gens, sans le faire exprès, hein, mais ça va tellement vite. Dans notre service, la contamination, elle est arrivée tellement vite, alors que pourtant, on avait des masques, on avait tout ce qu'il fallait, hein, mais on ne sait pas du tout comment on a été contaminé, ni par qui, parce qu'il y avait des visites. Nous, on était là en tant que soignants, il y avait des familles, enfin... On ne sait pas, du coup, par où c'est rentré, mais ça va à une vitesse. Et le matin, ils vont tous bien, et le soir, on appelle le SAMU, en gros, c'est ça. Et on n'a rien vu venir, rien du tout. Et ouais, c'est comme la plage, on tourne le dos parce qu'on est bien, là, au soleil, il y a un petit ressac, et puis d'un coup, on se prend un tsunami, et on n'a rien vu venir. Quand j'entends encore des gens qui disent « De toute façon, c'est une grippe, ça tue que des vieux, c'est pas grave. » Ouais, ben non, en fait. Parce que même si ça ne tuait que des vieux, bah, je suis désolée, mais les vieux, ils méritent de vivre, quoi. Les gens qui sont morts, ils n'avaient pas forcément envie de mourir. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est forcément en fin de vie et qu'on a envie de mourir.
Bonjour Lily. Alors, qu'est-ce qu'il raconte de beau le journal ?
Ben, les autoroutes sont toujours plus chères.
Ah, ça va, vous les prenez pas souvent, les autoroutes ?
Ah non, j'en prends pas, mais...
Ça va ?
Moi, je reste ici, je suis bien plus tranquille.
Là, ça fait quand même plus d'un an que ça dure. Ça devient compliqué, en fait. Là, on est en plein dans la troisième vague. Donc, nous, dans notre service, on n'est pas touchés. Mais on voit bien que, par exemple, dans les IFAS, donc les instituts de formation aides-soignants, il y a moins de candidats. Ça va devenir compliqué, en fait, parce qu'on est déjà à flux tendu en permanence. On est déjà en effectif un peu juste en permanence. Surtout, enfin, il y a certains services qui sont plus vendeurs que d'autres. Mais clairement, la gérontopsychiatrie... C'est pas là où on met les moyens, quoi. C'est au point de vue budget de l'État, c'est pas la priorité. Donc c'est des services qui sont durs parce que déjà on est en effectif un peu juste. là, clairement, je ne sais pas trop comment on va faire dans les années à venir. Ça fait des années qu'en fait, on alerte sur les conditions de prise en soin des personnes âgées en institution. Ça fait des années que les soignants disent « on manque de bras, enfin vraiment, aidez-nous, enfin, on ne peut pas s'occuper des gens bien en étant si peu nombreux ». Là, clairement, on a vu que c'était d'autant plus compliqué quand les gens allaient mal. Et ce qu'on voit, c'est que là, les gens vont commencer à aller mieux, mais que du coup, on va retourner à un effectif qui était comme celui d'avant, qui n'était déjà pas satisfaisant. Donc là, il y a vraiment un problème de toute façon. Il y a déjà une crise, en fait, dans le métier de soignant, autant chez les aides-soignants que les infirmiers. J'ai vu passer un article récemment qui parlait de 10 000 soignants qui comptaient démissionner ou qui étaient déjà partis de leur métier pendant cette année. Enfin, il y a déjà une crise parce que c'est un métier difficile, mais ça, on le sait quand on va le faire, mais c'est un métier qui est peu valorisé. Alors, il y a eu le Ségur de la santé, ce qui fait que notre fiche de paye est quand même meilleure que l'an dernier, et ça, clairement, c'est agréable. Mais à la base, les revendications soignantes, ça portait surtout sur l'effectif. L'effectif, on l'a pas. Et je veux dire, il y a une expression comme ça qui dit « la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». La meilleure soignante du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et qu'au bout d'un moment... On a beau avoir une formation, on a beau avoir des compétences, on a beau aimer notre métier, parce que oui, clairement, franchement, on aime notre métier. Quand on peut plus, on peut plus. Hein. Et là, par exemple, il y a eu des renforts pendant les vagues en établissement. Il y a eu des renforts. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans les patients, il y a des gens qui meurent et il y a des gens qui meurent pas. C'est assez binaire, hein, mais c'est comme ça. Les gens qui meurent pas, ils sont pas forcément comme avant non plus. Moi, je suis pas comme avant. J'ai une santé plus fragile après le Covid. Je m'en rends compte. Je suis pas la même, quoi. C'est clairement, voilà, il y a encore ces espèces de brouillards qui sont là. Il y a encore cette fatigue qui est là. J'ai toujours pas récupéré mon odorat. C'est quand même un petit peu embêtant. Donc, je suis pas aussi en forme qu'avant. Alors, imaginez chez des personnes âgées. En fait, la perte d'autonomie et le post-Covid, c'est pas juste passer d'un état à l'autre. C'est un état aussi transitoire. Il nécessite plus de bras, tout simplement. Parce que de même, quand on dit quelqu'un qui mange seul ou quelqu'un qui ne mange pas seul, ben, ça change tout. Quelqu'un qui mange seul, c'est quelqu'un qui a une assiette devant lui avec une fourchette, un couteau, un verre et qui prend son repas. Quelqu'un qui ne mange pas seul, c'est quelqu'un à qui il faut donner le repas. Donc, c'est un soignant pour un résident. Alors, s'il y en a 14, on n'est pas 14 soignants à table. On est 2 ou 3 soignants pour 14 résidents. Donc, s'il y en a 10 qui ne mangent plus seuls, ce sont 10 repas à donner. Et en fait, c'est en ça que la charge de travail est vraiment augmentée. C'est pas juste des soins techniques, c'est le soin de soignant, c'est ça, c'est de l'aide. Donc c'est de l'aide à la prise de repas, c'est de l'aide à la marche, c'est de l'aide au déplacement, c'est de l'aide à l'habillage. Là, pour les soignants, ce qui a aussi généré des mobilisations ces temps-ci, donc il y a eu les effectifs qu'on demande depuis des années. Il y a eu une injustice terrible sur la prime Ségur qui a été octroyée à certains et pas d'autres, en fait. Par exemple, moi, je suis aide-soignante dans un EHPAD, enfin dans une UHR, donc je bénéficie de la prime grand âge qui est d'environ 100 euros par mois, plus de l'augmentation du Ségur qui est de 183 euros par mois. Donc, en tout, par mois, j'ai à peu près 280 euros de plus qu'il y a 2 ans. Ce qui est beaucoup plus facile pour vivre, hein, je vous avoue. Un collègue ou une collègue qui se trouve à travailler en maison d'accueil spécialisée, par exemple, donc c'est un établissement qui accueille des personnes handicapées, qui serait, par exemple, dans un secteur de personnes vieillissantes, donc avec des gens qui auraient entre 60 et 80 ans, très lourdement handicapés, donc qui ferait à peu près le même travail que moi, forcément, n'aurait pas la prime grand âge, puisque la maison d'accueil spécialisée, comme elle accueille plusieurs personnes de plusieurs âges, en fait, il n'y a pas la prime grand âge. Et l'augmentation du Ségur, donc là, ça vient d'être octroyé, mais toute cette année, ils ne l'ont pas eu. Donc, un collègue qui bosse dans un secteur qui est similaire au mien gagne 283 euros de moins que moi. Ça fait des années que le ministère nous dit on va rallonger un petit peu la formation, on va passer en catégorie B, donc il y aura une meilleure reconnaissance professionnelle, ça sera un meilleur diplôme, enfin, du coup, vous serez mieux. Et d'un autre côté, là, c'est la crise, on nous dit, non, mais finalement, on va faire une petite formation accélérée, et puis comme ça, vous aurez plein de renforts, mais après, promis, hein, on fait la vraie formation. Ouais, enfin non, quoi. C'est fatigant, en fait, d'attendre toujours et d'essayer de se battre pour améliorer les choses, et au final, c'est un pas en avant, puis hop, on retourne un petit peu en arrière encore. Et les mobilisations soignantes, je pense qu'on n'en a pas fini avec ça. Moi, je m'en fiche, hein. Personnellement, je suis aide-soignante, je suis aussi éducatrice. Je me dis que quand j'en aurai marre dans mon métier, c'est pas grave. Je rends ma blouse, je rends les clés de l'hôpital et puis je postule ailleurs. Enfin, je peux aller postuler dans un autre établissement, je peux aller trouver un autre boulot au pire. Les patients qui sont à l'hôpital, les résidents qui sont en EHPAD, ils ne peuvent pas rendre le pyjama et dire « bon, ben, salut, hein, j'y vais, je vais trouver une chambre ailleurs ». Ils n'ont pas le choix, eux. C'est ça qui n'est pas juste, en fait. Nous, on a le choix.
Ce qu'on entend souvent, c'est que nous sommes là que pour laver les résidents. Pas plus. Que nous sommes maltraitants. Ces mouroirs, ça fait mal. Alors ?
Je cherche mes enfants.
À 4 heures.
À 4 heures,
oui, je vais vous accompagner, vous allez vous asseoir.
Bon, ça c'est gentil.
Ce que j'aimerais entendre aujourd'hui, c'est la parole des premiers concernés, en fait. On a beaucoup donné la parole aux soignants, aux directeurs, à ceux qui travaillent dans le soin. J'aimerais entendre la parole des personnes qui sont soignées. Il y a eu la parole des aidants qui a été très importante, mais les personnes qui vivent aussi cette période, mais qui la subissent, qu'est-ce qu'elles en pensent, elles ? Qu'est-ce qu'elles en disent ? Comment elles le vivent ? Comment elles ne le vivent pas, peut-être ? En fait, on parle beaucoup des gens, mais on parle sans les gens. Il y a une phrase que j'aime bien citer, c'est « ce que tu fais pour moi, mais sans moi, tu le fais contre moi ». On n'arrête pas de dire, on le fait pour les patients, puis en plus, c'est notre côté un peu gnangnan, ça, quand on est soignant, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour mes patients, j'aime tellement mon métier. Ouais, mais justement, tes patients, ils en disent quoi ? C'est ça que j'aimerais entendre, en fait. En fait, j'aimerais entendre tout le monde. Parce qu'on a, il y a eu beaucoup de clivages, en fait, entre la parole des soignants d'un côté, qui clairement ont souffert pendant cette crise, parce que voilà, ça a été, c'est encore compliqué. Déjà avant la crise, c'était compliqué, mais là, c'est pire. On a eu la parole des aidants, des familles qui disaient, mais on nous interdit de voir les gens dans les EHPAD, c'est scandaleux, c'est monstrueux, il y a des gens qui vont mourir de glissement, et c'est horrible ce qu'on a imposé aux familles. J'ai encore en mémoire les paroles d'une dame l'autre jour qui disait, en EHPAD, on a une espérance de vie à partir du moment où on rentre à l'institution, on a un peu plus de 3 ans d'espérance de vie sur place. Et la dame disait, en fait, avec cette crise et le confinement et l'interdiction de se toucher, on vient de perdre 1 an. Et cette phrase-là, je me suis dit, mais mince, nous, on est au jour le jour, en fait. Et chaque jour, il y a une consigne, un protocole, une activité, un emploi du temps. Ouais, mais un jour, plus un jour, plus un jour, ça fait 1 an. Et 1 an, quand on a une espérance de vie de à peine plus de 3 ans, c'est énorme. Et cette phrase-là, j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose, ouais, c'est lequel le dire, en fait, de réaliser d'un coup, de me dire, ouais, moi j'ai 43 ans, j'ai encore, au moins 20 ans de métier devant moi si je ne suis pas morte avant. Mais cette dame-là, son époux n'a plus que quelques mois ou quelques années à vivre. Et là, elle a perdu 1 an. Elle n'a pas 20 ans devant elle, en fait. Elle a 1 an en moins.
Merci à Florence Brault, aide-soignante, qui dans son temps libre se soigne par l'écriture. Florence anime 2 chroniques dans des publications spécialisées. Elle rédige la Minute de Flo pour les actualités sociales hebdomadaires et pour la revue Prescrire, elle fait nuance de blues. Blues comme blanche, pas comme la musique, je précise. C'est pour elle un vrai remède qui lui permet de mettre à distance les difficultés quotidiennes de son métier en les couchant sur le papier. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gann. On continue la série avec dans le prochain épisode la parole d'une médecin au cœur du réacteur du Covid, la réanimation. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions? Talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.